En fait, revenir plus de 40 ans plus tard, puis voir des personnes qui m'ont vue tout petite, revoir les enfants du camp, parce que les jumelles viennent à mon camp d'enfants l'été, puis ils vont être encore là cet été, c'est extraordinaire. C'est un vrai cadeau pour moi d'être parmi vous. Puis m'adresser aux enfants, aux familles, aux membres de l'Église qui m'ont vu bébé, c'est assez particulier, ça n'arrive pas souvent dans une vie, là. Bon, je prêche à mon église où j'ai vraiment grandi au Carrefour, mais quand même. Fait que c'est ça. Depuis 2 ans, j'ai la joie d'être pasteur au Carrefour chrétien de la capitale, pasteur adjoint. On appelle pasteur de la famille parce que je m'occupe principalement de tout ce qui est relié à la famille, les couples, les enfants, les femmes, les suivis. Puis les enfants, ben, il y en a quand même beaucoup de ce temps-ci. Il y en a 170 en bas de 11 ans. Le dimanche matin, fait que c'est une job à temps plein. Et puis, je suis aussi directrice des ministères pour les enfants au district du Québec. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce travail aussi pour aider les églises à élever les enfants dans la foi. Vous savez, j'ai toujours aimé les enfants. J'étais enfant, puis j'aimais déjà les enfants. Quand j'étais justement jeune, j'avais 3 jeux. Je jouais à la maman. Je jouais à l'école, puis je jouais à l'église. Je passais la communion à mes toutous. C'était vraiment mon univers. Fait que j'ai vraiment tenté d'organiser ma vie autour de ça, là, de devenir maman, de m'impliquer à l'église. Et puis, je suis devenue prof de français. J'ai fait ça pendant 20 ans quand même. Dans une école chrétienne à Québec, j'ai été super bénie de faire ce travail-là. Je me suis impliquée super gros à l'église. Des fois trop, mais quand même. Je me suis mariée au charmant Maxime, puis on a rêvé d'avoir une famille. Bon, ça, dans notre cas, ça a été compliqué, fabriquer une famille. Ça a été bien, bien compliqué, mais par la grâce de Dieu, on a eu 2 magnifiques miracles, Timothée et Emma. Timothée qu'on est allé chercher en Corée du Sud, à Séoul, il y a 15 ans. Et Emma, qui est un bébé surprise. Voilà, on est bénis d'avoir une famille, hein? C'est pas un acquis dans la vie, avoir une famille. C'est pas un dû, avoir une famille. C'est pas un dû, avoir des enfants. Puis faire partie d'une église à quelque part, c'est aussi faire partie d'une famille avec ses joies, ses peines, ses défis. Moi, là, mon église, c'est ma famille. Puis je leur dis souvent. Puis à quelque part, je revenais en fin de semaine au Nouveau-Brunswick, puis on dirait que je retourne chez nous. Tu sais, c'est ma famille. C'est de là que je viens. T'sais, c'est là que j'ai grandi. Fait que si je vous pose la question ce matin, est-ce qu'il y a des familles ici? Est-ce qu'il y a du monde qui font partie d'une famille ici? Tout le monde devrait lever la main. Tout le monde devrait... Qu'on soit grands-parents, enfants, parents, frères, sœurs, famille d'adoption, que vous soyez membre de l'Église, vous faites partie d'une famille. On fait toutes partie d'une famille. Puis quand je pense à ce thème-là de la famille... Je pense à une histoire dans la Bible qui me vient en tête, c'est celle de Joseph dans l'Ancien Testament. On parle souvent de Joseph là, qui est devenu conquérant, qui est devenu qui a été trahi par ses frères. Mais aujourd'hui, je trouve ça tellement inspirant comme histoire parce que c'est une histoire qui est réaliste. De un, c'est une famille qui n'est pas parfaite. Y a-t-il une famille parfaite ici? En tout cas, la mienne n'est pas parfaite. De deux, c'est une famille où les choix qui ont été faits n'ont pas toujours été les bons. Là, je ne vous poserai pas la question. Puis de trois, c'est une famille où il y avait de la jalousie, de la haine, de la désobéissance, du mensonge. Puis ça se peut-tu que dans nos familles, dans notre église même, qu'il y a ça des fois, qu'il y a des conflits, qu'il y a de la désobéissance, qu'il y ait des mensonges? Est-ce que ça se peut qu'il y a des enfants ici qui désobéissent des fois à leurs parents? Là, sont assis en arrière. Là. Est-ce que ça se peut que ça arrive des choses comme ça? Des adultes qui se disputent ou des parents qui sont irrités après leurs enfants ou après leurs ados ou des frères, des sœurs qui sont jaloux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous transformer. Il veut transformer le mal en bien dans nos familles puis il veut qu'on ait les bons piliers pour qu'on ait des familles en santé, qu'on ait une église en santé. Il veut transformer la haine en amour, la dispute en paix, la désobéissance en obéissance, puis il veut transformer le mensonge en vérité. Dieu, il désire qu'on soit des familles qui pardonnent. Puis c'est le titre de mon message ce matin, « Une famille qui pardonne ». Parce que pour moi, c'est l'essence d'une famille, puis d'une église en santé, c'est le pardon de part et d'autre. Parce que vu qu'on est humain, on fait des erreurs. Puis c'est sûr que si le pardon ne fait pas partie de notre style de vie, on ne grandira pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Merci Seigneur pour ce temps qu'on a ensemble ici à l'église d'Edmundston. Je te prie de bénir mes frères et sœurs, de bénir ta parole, que nos cœurs soient ouverts, que ce soit pour les enfants et les adultes. Merci Seigneur, parce que tu es là, que tu es avec nous. Amen. Alors, vous connaissez bien évidemment l'histoire de Joseph dans la Bible, n'est-ce pas? Fait que c'est un garçon qui, dès son plus jeune âge, là, il a reçu des rêves spéciaux de la part de Dieu. Puis dans ses rêves, il voyait ses frères s'agenouiller devant lui et se prosterner devant lui. Puis lui, il s'est un petit peu mis dans le trouble. Là, j'enseigne comme si j'étais à l'école du dimanche, hein, tout le monde. Alors, il s'est mis dans le trouble en racontant ça à ses frères. Puis déjà, qui était le préféré de son père parce qu'il était le fils de la belle Rachel. Et il avait même reçu un manteau multicolore juste pour lui, puis pas les autres. Fait que les frères ont commencé à dire, ouais, il se prend pour un autre, lui, il est pas trop gentil. Fait que là, le climat dans la famille devait être rempli de rivalité, de jalousie, d'injustice. Puis un jour, la jalousie a pris un essor épouvantable, puis ils ont décidé de se débarrasser de lui, de se débarrasser de leur frère. Puis ils l'ont vendu comme esclave. Vous me suivez jusque-là? Vous connaissez cette histoire-là pour la plupart. Les enfants, ça va? Vous vous souvenez de cette histoire-là. Fait qu'ils sont ensuite retournés chez leur père, puis ils ont dit, hey, « Joseph, il est mort, il a été tué par une bête sauvage, mensonge. Hein? » Fait que Jacob, il a été complètement anéanti, complètement détruit. Puis Joseph s'est retrouvé loin de chez lui, en Égypte, dans un pays étranger, seul. Il était en chicane majeure avec sa famille. Puis ça fait mal. Des chicanes de famille. Est-ce que ça fait mal? Épouvantable. Je crois que quand on se chicane entre frères et sœurs, moi, les pires chicanes que j'ai eues dans ma vie, c'est avec mon petit frère. Pouh! Il est dur. Puis moi, je suis capable aussi. Fait que c'est tough, puis ça fait mal. Ou des chicanes avec nos parents. Ouh, ça vient nous chercher. Ou des chicanes d'église. Ça fait faire l'anxiété énormément, je trouve. Alors, Joseph, il était rendu loin, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Même au fond du puits, même dans la prison, même dans les pires injustices, Dieu était là. Puis Joseph, il a fini par interpréter les rêves de Pharaon, puis ça s'est avéré vrai. Puis peu à peu, Joseph s'est retrouvé dans une position incroyable. Il est passé de l'obscurité à la lumière, puis il s'est retrouvé dans une position de leadership. Il était rendu l'homme de confiance en Égypte. Et puis c'est là qu'il est devenu en charge de toute l'organisation alimentaire du pays pendant la famine, parce que ça s'est avéré le rêve. La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit le blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Mais là, c'est là que l'histoire devient touchante pour nous et intéressante ce matin. Sa famille, tu sais, celle avec qui il s'était chicané, habitait encore à Canaan, puis son père, il ne savait pas qu'il était encore vivant. Il le croyait mort, puis il s'en était toujours pas remis. Je ne crois pas qu'on peut se remettre de la mort d'un enfant. Puis maintenant, ben, toute sa famille vivait des choses difficiles. La terre était complètement desséchée. Il n'y a rien qui poussait. Il n'y avait plus de nourriture. C'était la famine. La famille implorait Dieu. « Seigneur, fais quelque chose, Dieu, fais quelque chose pour qu'on puisse manger. » Puis un jour, le père Jacob, pendant une réunion de famille, dit à ses fils, « Là, c'est assez. Allez au pays des pyramides. Allez chercher. Il y en a là-bas. » Eux autres, ils ont réussi à en mettre du grain de côté. Allez en acheter là-bas. Il envoie ses fils, mais il dit, « Mais vous gardez le plus jeune frère, il va rester à côté de moi, Benjamin, parce qu'il était l'autre fils de Rachel. » Puis il dit, « Pas question que je perde un autre fils de Rachel. » Alors, les frères se rendent là-bas, puis ils se retrouvent devant une espèce de grand administrateur, probe, la Bible ne le dit pas, mais un grand administrateur d'Égypte, il devait quand même être accoutré d'une façon égyptienne, alors qu'eux étaient cananéens, c'était complètement, ils ne pouvaient pas reconnaître la personne. Il arrive devant le grand monsieur qui est tout habillé spécial. Et là, Joseph voit ses frères arriver. Lui, il les reconnaît, mais eux, ils ne savent pas du tout qui il est. Pouvez-vous imaginer juste un instant comment Joseph s'est senti? Juste 2 minutes. Sincèrement, des gens que vous avez aimés, vraiment beaucoup. Moi, je crois que Joseph aimait ses frères. Il était juste immature dans sa manière de le dire. Des gens que vous aimez vous ont trahi, rejeté, puis là, des années après, ils viennent vous demander de l'aide. Tu te chicanes avec ta sœur, puis 10 minutes après, elle vient te demander de l'aider. Mais la chicane n'est pas réglée. C'est pas le fun. Ça, c'est à un niveau enfant, mais il y a quelque chose à avoir une grosse émotion, hein? Pas juste une petite émotion, un choc. Le niveau d'anxiété a dû grimper chez Joseph. Je peux juste imaginer en dedans qu'il a dû se sentir. Et puis là, la Bible nous dit que ses frères se sont inclinés devant lui, exactement comme il avait rêvé. Et là, il aurait pu vouloir se venger puis dire, être arrogant, puis prendre la position d'arrogance et dire, je vous l'avais dit, hein? Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit. Mais non. Puis nous, dans nos familles, ça arrive aussi. Il y a des tensions, des malentendus, des blessures qui laissent des marques. Puis dans nos églises, est-ce qu'il y en a des fois des blessures? Puis des fois, ça fait des cassures profondes. À mon église, au Carrefour, on en a eu des divisions, puis des blessures, puis ça a fait des cassures profondes, des chocs majeurs. Puis notre premier réflexe, c'est quoi? Joseph, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu se cacher, se refermer, répondre, riposter. Mais le cœur de Dieu, c'est pas ça. Le cœur de Dieu, c'est autre chose. Puisque Joseph a choisi, c'est le chemin du pardon malgré le choc. Le choc de revoir ses frères 20 ans après qui lui demandent de l'aide alors que ça ne lui tente probablement pas. Malgré les blessures, il choisit le pardon. Je crois fermement que des familles qui laissent Dieu transformer le mal en bien, c'est le cœur de Dieu. C'est pas facile, mais c'est juste possible avec lui. J'ai oublié de changer mes affaires. Joseph devait être quand même frileux. Il se demandait si ses frères avaient changé. Avec raison. Mais il ne voulait pas se venger. La Bible nous dit la chose suivante. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Puis ça, c'est Joseph qui dit ça. Et quand il dit ça, il n'est pas en train de dire, je les ai oubliés, je ne veux plus rien savoir d'eux autres. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, il n'a pas éliminé le souvenir des événements. Il a oublié la douleur et les souffrances causées par ça. Il a quand même voulu tester l'honnêteté de ses frères parce qu'une vraie réconciliation, là, une vraie réconciliation entre des frères et sœurs, entre des parents, dans une famille, ça demande quand même une repentance sincère. Puis ça, bien, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Fait qu'il les a jetés en prison, puis il les a observés. Puis rendu en prison, bien, il a vu quelque chose de beau. Il les a vus prier. Puis il n'était plus pantoute arrogant. Plus du tout méchant. Fait qu'il est revenu auprès d'eux, puis il a dit, « J'ai réfléchi à votre sort, vous pouvez sortir de prison, allez chercher votre jeune frère Benjamin, mais en attendant, m'a gardé Siméon, juste pour être certain que vous reveniez pour vrai. » Et là, la réaction des frères est assez particulière. On voit la transformation de cœur après 20 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur des gens après 20 ans? Ses frères disent, « Oh, on a été coupables envers notre frère. On a vu sa détresse. Il nous demandait grâce. Puis nous, on ne l'a pas écouté. Voici, son sang nous est redemandé. » La Bible nous dit à ce moment-là que Joseph est sorti pour aller pleurer. Est-ce que vous êtes déjà sorti d'une pièce pour pleurer pendant une réunion de famille ou pour souffler parce qu'il y avait trop d'émotions face à une situation familiale, après une chicane? Est-ce que ça vous est arrivé d'aller aux toilettes pendant une réunion des membres d'église? Parce qu'on est une famille à l'église, hein? Moi, oui. Honnêtement, j'ai boudé les réunions des membres pendant une dizaine d'années, moi. À mon église. C'était trop difficile de voir mes parents se faire... J'haïssais ça. Mais cette confession des frères de Joseph-là, qu'est-ce que ça l'a créé chez lui? Bien, c'était le début d'un temps nouveau. C'était le début d'une possible réconciliation dans la famille. On est toutes des familles ici. On est une grande famille en tant qu'Église, puis les enfants, on est une famille avec nos parents. Mais suivant les ordres de Joseph, les frères sont retournés à Canaan. Puis ils ont couru voir leur père. Puis le pauvre Jacob, il était vieux, il était fatigué. Il ne s'était jamais remis de la disparition de Joseph. Puis là, il arrive, c'est Siméon qui manque. Puis là, Judas, il a raconté à son père ce qui s'était passé. Puis que là, il fallait qu'il retourne en Égypte s'il voulait de la nourriture, mais qu'il fallait qu'il retourne avec Benjamin. Jacob avait dit non, hein, au départ. Fait que ça prend un petit peu de temps avant que Jacob dise oui, mais il a fini par accepter. Il retourne en Égypte. Puis quand il cogne aux portes du palais, on ouvre la porte et le Joseph se retrouve face à tous ses frères. La Bible dit encore qu'il a pu contenir ses émotions. Et la Bible ne dit pas souvent que les hommes ne contiennent pas leurs émotions. Là. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas culturellement très, très accepté. Ça veut dire que l'émotion était très élevée. Ça se peut dans les familles, les chicanes, où l'émotion est très, très élevée. Fait que ses frères étaient tous devant lui, puis là, il se fait libérer Siméon de prison. Il leur donne du blé, ils repartent, il leur dit « Partez! » Mais là, l'histoire finit pas là. Le lendemain, les frères ils repartent, retrouver leur père à Canaan. Puis ça n'a pas pris de temps qu'ils ont été rattrapés par les gardes du roi. Par les gardes du roi. Puis ils ont dit, hey, il y a quelque chose qui a disparu. Il y a une coupe d'or, d'argent qui a été disparue au palais de Joseph. Puis ils disaient, hey, on n'a rien volé nous autres. Là, nous, on veut être dans l'intégrité. Je vous le promets, on ne mentira pas. Je crois qu'ils marchaient, comme on dit, les fesses serrées. Ils ne voulaient pas que la chicane repogne. Ils ne sont pas au courant encore de ces Joseph-là. Mais ils voulaient faire les choses correctement. Et puis là, ben, ils disent, ben, on va fouiller vos sacs, les gars. Alors, ils se mettent à fouiller les sacs et ils retrouvent la coupe dans le sac de Benjamin. Fait que là, les frères étaient complètement désemparés, déchirés, complètement détruits. On nous dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements, puis c'était un signe de désespoir, un signe d'humiliation. C'est Judas qui s'est avancé devant au nom de ses frères puis qui a dit « Ok, c'est correct, je prends la place de Benjamin. Je serai celui qui ira en prison. Je serai celui qui perdra ma vie. Sinon, mon père ne s'en remettra jamais de perdre un autre fils, son plus jeune fils. Il va en mourir. » Je veux juste vous rappeler que Judas, là, c'est celui qui est prêt à se sacrifier. Mais Judas était celui qui avait eu l'idée, qui avait été le meneur pour faire du mal à Joseph, pour le vendre. Il avait changé complètement, sincèrement. Puis Joseph avait maintenant la preuve que ses frères avaient peut-être compris, qu'ils prenaient soin du plus jeune frère, qu'ils aimaient vraiment leur père puis qu'ils le respectaient. Puis là, on avait le signe d'une réconciliation entre les frères possible, d'une sécurité émotionnelle. Mais là, attention, il y a une différence entre pardon et réconciliation. La relation peut être établie uniquement s'il y a repentance et changement. Les enfants, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire « je m'excuse » en roulant des yeux? OK, les épouses et les époux, ça arrive-tu des fois de dire « je m'excuse » ? Soyons honnêtes, hein? C'est pas 100% sincère. Quand on se repent vraiment, là, on change le comportement. S'il n'y a pas de repentance, c'est sûr que si on a été offensé par quelqu'un puis on voit que la personne, elle ne se repent pas, on ne retourne pas devant le troc pour se faire ramasser à nouveau. Voyons donc, on ne peut pas faire ça. On ne retourne pas de s'exposer à des nouvelles blessures ou à des relations toxiques. Je ne pense pas que Dieu nous appelle à être des tapis, là. Je pense qu'on est appelé à mettre nos limites aussi. Toutefois, c'est super sain d'agir ainsi. Mais on peut pardonner parce que ça, c'est entre nous et Dieu. On peut pardonner à notre frère, à notre sœur, parce que ça, c'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas entre les deux personnes qui s'opposent. Il y a peut-être une possible réconciliation plus tard, mais je veux juste vous rappeler que ça a pris 20 ans. C'est une tragédie de demeurer dans la haine puis dans la frustration du passé. On fait juste se ressasser le passé. Là, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui fait juste parler du passé négativement, puis il vit, puis il revit ses drames à répétition? Fait juste reparler du passé. C'est peut-être nous autres, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous. On est perdant quand on agit ainsi. Fait qu'une famille qui renonce à la vengeance, Joseph a renoncé à se venger. Ça demande beaucoup d'humilité puis une très grande maturité de renoncer à la vengeance. Un coup qu'on a pardonné malgré le choc, qu'on a pardonné et renoncé à la vengeance, on peut reconstruire l'unité quand les éléments sont là. Là, Joseph, il n'en pouvait vraiment plus, puis il a demandé à tous les serviteurs de sortir, puis il a dit, « Laissez-moi tout seul avec les Hébreux, s'il vous plaît. » Il était temps. Alors, la Bible dit, Genèse 45, 2 à 5, super beau passage. « Il se mit à sangloter. » Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? » Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Eux autres aussi ne devaient pas se sentir bien dans les culottes. Ils n'avaient pas encore demandé pardon. Ils avaient démontré un changement de cœur, mais... Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu. » Et je répète, « Ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. » Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il leur pardonnait. Joseph a choisi de pardonner à ses frères malgré le choc, malgré le drame, malgré ce qu'il vivait, malgré ses émotions, malgré le passé, surtout malgré les offenses. Ce qui est le plus beau, c'est qu'il reconnaissait que Dieu avait utilisé les mauvaises actions de ses frères, les terribles actions de ses frères pour sa gloire, mais pour sauver sa famille plus tard. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, on ne comprend pas, on est fâché, on est en chicane avec des gens, on ne comprend pas pourquoi. Mais plus tard, Dieu peut prendre ça et nous relever. Fait qu'il a raconté à ses frères tout ce qui est arrivé, à quel point Dieu avait pris soin de lui à travers tout ça. Il a demandé, allez chercher vos familles, ramenez papa, on va s'installer en Égypte, vous n'aurez plus à vous inquiéter pour la nourriture. C'était le temps des retrouvailles. J'ose pas imaginer comment Jacob a dû se sentir. Le fils qu'il croyait mort était encore vivant. Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. J'irai le voir. Avant de mourir, quand il l'a vu, bien sûr, j'étais à son cou. Il s'est mis à pleurer. Maintenant, je peux mourir parce que je t'ai vu, parce que mes yeux t'ont vu. Dieu est souverain. Ses plans ne sont pas dictés par les hommes, peu importe ce qui arrive. Les plans de Dieu ne sont pas dictés par les choix des hommes, par les choix que les gens nous font subir des fois. Joseph a subi les choix de ses frères, les choix de sa famille. Est-ce que ça arrive dans vos familles, ça? Subir les choix des autres? Dans notre église, dans notre famille ici? Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu a changé Joseph et ses frères, mais il a utilisé les circonstances pour sa gloire. Puis Dieu désire ça aussi dans nos familles. Puis là, je vais demander aux enfants de venir me rejoindre en avant. Est-ce que le micro est capable d'aller en bas, vous croyez? Oui, hein? On va faire une petite expérience ensemble. Alors, je vais faire ce que je fais à l'école du dimanche tout le temps avec mes enfants. Merci. Emma, est-ce que tu peux prendre l'assiette de verre? Salut. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes gênée d'être devant tout le monde? Non? Vous les connaissez, hein? Tu peux-tu toutes me nommer? C'est une joke. Je veux pas que tu me nommes. OK. Alors, ici, on a comme une assiette et maintenant, on va mettre notre vie dedans. Ça vous va, tout le monde? On va mettre notre vie dedans. Notre vie, c'est comme ça. Mets du sable dedans, s'il te plaît. Il faut que tu l'ouvres. Mets-le pas par terre parce que je crois que le concierge va être très fâché après moi. Il ne m'invitera plus jamais. OK. On y va doucement. Prends du sable. Et ça, c'est notre vie. Tu peux l'étendre. Toi, tu veux-tu l'étendre, un sable? Vas-y. Étends-le. C'est notre vie. On vit à tous les jours. Je pense qu'il en manque du sable. Un petit peu. Oui, il en manque pas mal. Alors ça, c'est notre vie de tous les jours. Là, j'ai quand même remarqué, il y a beaucoup de bois ici. Un petit peu moins de gratte-ciel qu'à Québec. C'est bien correct. Et ici, on a nos actions de tous les jours. Et là, je vais demander aux enfants de me dire, ça par exemple, c'est moi qui vais y toucher. Sauf que vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez faire, mettons, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Une action tous les jours. Qu'est-ce que tu fais?
On va faire bientôt.
Moi, je le sais, qu'est-ce que tu fais à midi et demi? Qu'est-ce que tu vas faire à midi et demi?
Je fais un spectacle de gymnastique.
Un spectacle de gymnastique. Ça, c'est la vie de tous les jours. On fait des qui fait des spectacles de gymnastique ici? Lève sa main! OK. On fait l'épicerie. OK, toi, qu'est-ce que tu t'as fait hier?
Pas grand-chose.
OK, est-ce que ça vous arrive de faire pas grand-chose? Moi, ça m'arrive de faire pas grand-chose. OK, toi, où t'as mangé hier?
Je sais pas.
Au truc, le pirate.
Le pirate?
Ah, on a mangé à le pirate. Ah, voilà. Là, j'en ai mis beaucoup, hein? C'est assez, hein? OK, super. OK. On va au Tim Hortons. Non, hey, Maxime, là, j'en ai sur le doigt. Fait que tu peux-tu venir me... OK. Ça, c'est à tous les jours. C'est nos actions de tous les jours. Mais parfois, dans nos actions de tous les jours, on a de l'amertume. Puis là, c'est notre rancune qu'on a envers les gens qu'on connaît. Les gens de l'Église, les gens de notre famille, hein? Et puis là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui s'appelle Maxime, mon époux. Veux-tu mettre le feu dedans? Let's go! Vas-y! OK, c'est non. Ouais. Vas-y, let's go, mon pit. Puis tu te tasques, hein? Il marchait-tu, Max? Bon. Vas-y. OK, peut-être que Max, tu peux le faire. OK. Oh! Et regardez ce que ça crée dans notre cœur. Quand on laisse l'amertume grandir dans notre cœur, là, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Tu peux prendre mon... Ça ne va pas arrêter de grandir. Ça peut être envers un frère, envers une sœur, envers un père, une mère, un grand-parent, un frère de l'Église, un ancien pasteur, un ancien membre de l'Église. Regardez comment ça n'arrête pas de grandir. Le feu continue de consommer. Puis tout ce qui grandit dans notre cœur, c'est laid. C'est pas beau. Le manque de pardon, c'est ça que ça crée dans notre cœur. Puis ça n'a pas fini de brûler, je vous le promets. Regardez, ça fait juste se lever. Bleh. La blessure, elle peut être parfois même légitime. On peut être vraiment fâché après quelqu'un parce que la personne n'a vraiment pas été gentille. Puis c'est légitime. C'est correct d'être fâché. C'est ce qu'on fait avec notre fâchage qui n'est pas correct. Joseph, il aurait pu simplement se venger puis éliminer ses frères. Puis savez-vous quoi? L'histoire aurait arrêté là, puis on aurait comme fait, ben, bonne affaire. Ça, c'est humainement. Mais divinement, c'est pas comme ça. Divinement, c'est pas la bonne chose. C'est pas ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a voulu s'assurer qu'il ne serait pas trahi encore une fois. Mais il n'a pas laissé l'esprit de vengeance, de chicane, s'emparer de son esprit, même s'il aurait vraiment pu. C'est assez naturel de s'emparer de l'esprit de vengeance. Mais je pense que ce n'est pas bon. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 20 ans entre les deux événements. Le temps a fait son œuvre aussi pour guérir. Je ne sais pas si l'attitude de Joseph aurait été le même si ça avait été 10 minutes après qu'il l'ait jeté dans la citerne. Je ne le sais pas. Mais Dieu avait eu le temps d'agir dans son cœur puis a choisi le pardon. Puis ça, c'est un pilier d'une famille en santé, c'est le pardon. Alors aujourd'hui, je vous demande la chose suivante. Si on laissait Dieu réellement transformer chacun de nos cœurs pour nos familles, ça se peut que tu sois fâché des fois après tes parents, après ta sœur, après ta cousine, je ne sais pas. Pour notre Église aussi. Puis si on ne laissait pas les colères s'envenimer puis devenir plus grandes que nature, parce que des fois, la chicane est petite de même, mais ça devient énorme comme ça. Nos familles à tous ont besoin de plus de pardon, ont besoin des relations saines avec les membres de nos familles, on a besoin d'être remplis de pardon. Qu'on ait 3 ans, 10 ans, 12 ans ou
13 ans.
Ou 65, ou 82, ou 34. On a tous des raisons de maugréer puis d'être fâchés. On a toutes des raisons d'être en colère dans nos familles. On a tous des raisons d'être frus, de bouder. Mais le pardon devrait être un mode de vie dans nos familles. Pourquoi? Parce que Jésus nous a pardonnés. Puis je ne peux pas croire qu'alors que Jésus nous a pardonnés puis qu'on le prêche, nous, on ne pardonne pas en retour les gens qui nous font du mal. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Christ, le Seigneur, vous a pardonné. C'est dans Colossiens. Ce matin, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à une personne. À qui on a besoin de pardonner? Une personne que le Saint-Esprit peut, puis peut-être que les musiciens peuvent revenir. Une personne dans votre famille, famille d'église, famille à la maison, famille at large, une personne à qui vous devez pardonner. Ça peut être un fils, une fille, un oncle, une cousine, un époux, une épouse, un ex-conjoint, je dirais même un défunt. Des fois, il y a des chicanes qui ne se règlent pas, puis là, le décès de quelqu'un, puis ça ne s'est juste pas réglé. Mais on a le droit de pardonner. On a le droit de pardonner. Peut-être c'est un ancien membre d'église. Peut-être pour certains, ça peut être une grosse chose comme ce qui est arrivé à Joseph. Je peux juste penser aux gens qui vivent des agressions. Honnêtement, je ne conseille pas en tout de retourner puis de rétablir la relation, là. Non. Mais je conseille de pardonner, par exemple, pour grandir en Jésus. Ça peut être des choses peut-être moins graves, mais tout aussi blessantes. Se faire parler dans notre dos. Se faire dire qu'on n'est plus bon. Puis alors que la musique va jouer doucement, j'aimerais ça que vous demandiez au Saint-Esprit de vous révéler une personne à qui vous devez pardonner, ou peut-être une personne à qui vous devez demander pardon dans votre famille. Il y a peut-être une personne à qui vous devez demander pardon, puis les offenses peuvent avoir été faites il y a vraiment longtemps. Ou les offenses peuvent être là, il n'y a pas longtemps. Il y a de la puissance dans le pardon. Il y a tellement eu de puissance dans le pardon, puis dans le sacrifice à la croix qu'on est sauvé, puis que nous, on est sauvés pour l'éternité. Fait que je crois qu'il y a de la puissance dans le pardon, dans nos relations sur terre aussi, puis dans nos relations familiales. Qu'une famille qui demande pardon et qui pardonne, c'est une famille qui est ancrée en Jésus. C'est une vraie famille dont les piliers sont solides. On va laisser Dieu nous guérir et agir. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné, Éternel. En retour, Seigneur, je te prie de nous éclairer sur les bonnes personnes à qui on doit demander pardon ou à qui on doit pardonner pour être libéré de l'esclavage de la vengeance, de l'esclavage des mauvaises émotions, Seigneur, et de la victimisation. Merci, Jésus, parce que tu es grand et que tu nous révèles ces personnes, Seigneur. Et remplis-nous de ton amour, Jésus. Remplis-nous de ta grâce et de ta bienveillance, Seigneur.